Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le 50e Forum économique mondial s'est ouvert aujourd'hui dans la station de ski de Davos en Suisse. Le forum a commencé par mettre en évidence un profond désaccord que l'on connaissait déjà sur la question climatique entre le président américain Donald Trump et la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Que ce soit sur le climat, l'activité économique, le fonctionnement de la finance, les inégalités ou encore les grands équilibres géopolitiques, le forum de Davos fait souvent des constats, assez justes ou pas, on pourra en discuter. Mais en revanche, pour peser sur les événements afin d'éviter réellement les crises annoncées, on peut questionner l'efficacité du Forum économique mondial. Davos, à quoi bon ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Pauline Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de campagne justice fiscale et inégalité à l'ONG Oxfam France. Et Stéphane Voisin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien banquier et financier. Vous dirigez le programme Finance durable à l'Institut Louis Bachelier. Vous êtes aussi le co-auteur de Détox Finance. C'est aux éditions Erol. Et vous êtes encore chercheur et enseignant. Davos, c'est donc la réunion annuelle des grands patrons, des financiers de haut vol, des dirigeants politiques, de chercheurs, bref, d'une certaine élite mondiale. Le but affiché, c'est d'échanger, voire de s'inspirer des expériences des autres. Ça, c'est pour la théorie et le principe. Mais en pratique, comment est-ce que vous, vous le voyez, ce Forum économique mondial ? Et surtout, comment vous voyez son utilité, Pauline Leclerc ?
Alors, Oxfam profite, si je puis dire, du Forum économique de Davos pour mettre un coup de projecteur sur l'état des lieux des inégalités dans le monde. Ça fait 6 ans qu'on sort à la veille de ce forum un rapport sur les inégalités mondiales. Et cette année encore, nous faisons le constat d'un niveau indécent des inégalités mondiales. Nous révélons ce chiffre choc, c'est que les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus de richesses que 90% de la population mondiale. Avec ce rapport, on s'adresse très directement aux décideurs politiques et économiques qui sont à Davos, en leur disant vous êtes responsable de la situation dans laquelle on est, vous êtes responsable de l'accroissement des inégalités par les politiques que vous menez, par vos pratiques économique, commercial, et vous avez le devoir de changer les choses. La solution est entre vos mains.
Donc ce que vous voulez, c'est les interpeller directement.
Absolument.
Stéphane Voisin, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce Forum économique mondial ? Comment vous le voyez ? Est-ce que ça sert à quelque chose ?
J'aurais plutôt tendance à penser que ça sert à quelque chose. C'est un lieu un peu décalé qui se veut, lui-même, le Web Economic Forum, se veut un endroit où on peut potentiellement résoudre des crises ou des problèmes qui sont difficilement résolvables dans d'autres cercles. Et donc, si on, effectivement, on peut arriver grâce à la réunion d'une concentration de pouvoir à la fois public et privé sans égal, sans précédent, à intégrer des sujets aussi importants et aussi urgents que le changement climatique, ça peut être vu comme une bonne nouvelle, effectivement.
Oui, Pauline Leclerc, dans un monde qui est tenté apparemment quand même par le repli sur soi, est-ce que le simple fait que des gens venus d'horizons et de pays différents échangent, est-ce que ça, c'est pas quand même une bonne chose ?
Absolument. Par contre, je peux comprendre que cette réunion dans cette montagne, hein, il y a une espèce de mythe, ces ultra riches, ces patrons millionnaires, milliardaires qui se réunissent entre eux, ça donne l'impression d'un entre-soi, d'une déconnexion. Faut quand même rappeler que cette année, il y a une concentration de richesses inédite à Davos. On parle de 119 milliardaires qui pèsent à eux seuls 500 milliards de dollars. Donc j'entends que ça déconcerte. Après, Oxfam est présent sur place, participe au panel. Pourquoi ? Ça nous semble très important d'être en face d'eux, de pouvoir leur répondre directement à leurs arguments, parce que sinon, ils vont écrire l'histoire seuls. On a besoin
Parce que vous y êtes, hein, il faut le préciser.
Voilà,
c'est pas juste le rapport qui est sorti à la veille. Vous êtes présent à Davos.
Exactement. Oxfam est présent à Davos. On est représenté cette année par le directeur d'Oxfam India, Amitabh Behar. Donc voilà, encore une fois, on est là-bas pour leur proposer une autre façon d'écrire l'histoire, parce qu'en fait, si on les laisse entre eux, ils vont écrire leur histoire, une jolie histoire d'ailleurs, hein. Faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que le thème de cette année, c'est un monde plus solidaire et plus durable. C'est important qu'on soit là pour leur dire qu'on a une autre vision des choses, qu'une autre économie est possible.
Stéphane Voisin, je rebondis sur ce que vous disiez il y a un instant. Est-ce que ce grand rassemblement de Davos est plus ou moins efficace que les grandes instances internationales ou les sommets de chefs d'État? Est-ce que ça peut l'être? Est-ce que, voilà.
Il peut avoir son efficacité dans la mesure où ça permet un dialogue, on va dire, informel, entre des parties qui n'ont pas forcément l'occasion de se voir en direct et d'avoir dans la même salle, effectivement, le président de Greenpeace et le président brésilien ou Trump et Greta, et souvent même dans les antichambres. Moi, j'y étais il y a 3 ans et c'est assez intéressant de voir que on est parfois dans des antichambres ensemble. Et je crois que c'est fait exprès, en fait, de laisser des espaces où les uns et les autres peuvent se parler directement. C'est le début d'un engagement qui peut avoir des conséquences qui sont souvent les résolutions des conflits sont souvent aussi le résultat en gros de relations humaines et personnelles. Donc ça peut créer ces relations humaines et personnelles qui peuvent avoir des conséquences positives. Voilà. Il n'y a pas, à mon avis, comme dit en anglais, il n'y a pas de downside.
Pauline Leclerc, on y vient pour échanger ou est-ce que chacun y vient de son côté pour affirmer sa communication, sa politique, ses actions? On y vient pour échanger ou pour affirmer et puis on repart chez soi?
Alors, le niveau, le fossé abyssal qui perdure entre les très riches et les très pauvres, ce constat des inégalités qu'on rappelait au début de notre échange, montre de fait que cette réunion des grands de ce monde qui font des vœux pieux hein, pour la planète, ne sont pas suivis de faits. Donc on est aussi là pour dire, les mots c'est bien joli, mais on arrête avec les blablas, il va falloir passer aux actes, parce qu'en fait là il y a urgence. Oxfam est présent sur place et publie des rapports pour documenter les inégalités, mais derrière c'est important de le préciser, on le sait pas toujours, on propose des solutions, on fait des recommandations politiques sur la fiscalité, sur le financement des services publics, on produit des tas de chiffres, donc on est dans l'échange constructif, mais on est aussi dans une ambition très élevée sur les attentes politiques qui sont attendues, parce qu'en fait là il y a urgence et les inégalités ont un coût terrible pour l'ensemble des populations et d'abord pour les plus pauvres.
Alors on va en reparler, mais d'abord je vais vous demander, Stéphane Voisin, puisque vous y avez été, que vous suivez ça d'assez près, est-ce que pour vous Davos, le forum de Davos, anticipe les grands changements ou se contente de les constater? Est-ce que par exemple, enfin je connais la réponse, mais personne n'avait anticipé à Davos début 2008 la crise de 2008.
Non, en effet, je pense qu'ils sont plutôt suiveurs et qu'il y a forcément un décalage. Ceci étant dit, il n'y a pas un seul thème qui est traité à Davos. Il y a énormément de thématiques qui sont traitées et parfois très très presque un peu ésotérique et parfois assez innovante. Aujourd'hui effectivement le thème central c'est vraiment la solidarité, le bien-être, le climat. Ça aurait pu être il y a 10 ans, ça n'aurait pas fait de mal, ou en tout cas il y a 5 ans dans le suivi de l'accord de Paris et de la COP 21. On n'est pas à Porto Alegre, hein. on est à Davos, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Ils ont des agendas, les uns et les autres, donc ils viennent effectivement avec leur agenda. Il y a un thème imposé par les organisateurs, mais chacun essaie de défendre son agenda. Donc en fait, l'agenda est forcément lié à l'actualité et à l'intérêt l'intérêt bien compris des uns et des autres de faire progresser leur agenda. Il ne faut pas trop se faire d'illusions.
Oui, Pauline Leclerc, ça sert à communiquer, à se faire mousser, j'allais dire ça de manière un peu familière, à montrer qu'on se préoccupe des problèmes du monde, à parler d'environnement, d'optimisation fiscale à moindre coût.
Tout l'enjeu pour les ONG, pour la société civile qui sont sur place, c'est de mettre ces décideurs du monde face à leurs contradictions. Et on est complètement en mesure de le faire parce qu'on produit de l'expertise. Et puis on est aussi les porte-voix à Davos de toutes les mobilisations sociales, toutes les mobilisations citoyennes qui s'expriment partout dans le monde, qui sont en attente de changements, que ce soit sur le climat ou sur la question des inégalités. 2019 s'est totalement embrasé sur le terreau des inégalités et sur les attentes face au changement climatique. Donc on porte aussi ça, et Davos, ça se joue là-bas, mais ça se joue en dehors.
Alors, est-ce que, je rebondis là-dessus, est-ce que depuis le temps que, depuis 6 ans, que Oxfam produit ce rapport avant, en ouverture du forum de Davos, est-ce que vous avez eu parfois, sur tel ou tel sujet, la sensation d'avoir été entendu ?
Malheureusement, je suis obligée de dire que on est pour l'instant très loin de ce qu'il faudrait faire pour s'attaquer aux inégalités extrêmes. Et je dirais même que les politiques mises en œuvre par la plupart des gouvernements font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pour réduire les inégalités, il faut taxer davantage les plus riches. On voit qu'à l'échelle du monde, une grande majorité des États réduisent de plus en plus la taxation des très riches. En France, on a supprimé l'ISF, pour donner juste cet exemple. S'il y a peut-être un chantier sur lequel c'est un peu en train de bouger, c'est sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale, parce que on se rend tout bonnement compte que c'est des ressources en moins pour les États, tout comme aussi alléger la fiscalité des très riches. Donc ça bouge un petit peu. Il y a une réforme internationale qui est en train d'être discutée au niveau de l'OCDE. Oxfam travaille beaucoup sur le sujet, surveille ce processus. On le surveille dans le sens où là, il y a 135 pays qui ont envie d'avancer sur une imposition commune. Nous, notre souci, c'est que les nouvelles règles fiscales soient favorables aux pays en développement et pas seulement aux pays riches.
Alors Stéphane Voisin, vous allez peut-être rebondir sur ces histoires d'optimisation fiscale et de progrès, et évidemment sur l'évasion fiscale, mais je vais quand même vous poser la question à vous. Est-ce que vous voyez des domaines où le forum de Davos a fait évoluer les choses ou au moins éviter des changements négatifs ?
Je pense qu'il y a des choses qui se font en amont de Davos qui sont positives. Par exemple, pour cette année, la lettre, en tout cas l'engagement que Klaus Schwab a demandé à l'ensemble des participants.
Klaus Schwab, c'est le professeur qui est fondateur de Davos.
Exactement, le fondateur du forum, a demandé à l'ensemble des participants, entreprises notamment, mais organisations et pourquoi pas individus, de s'engager sur des objectifs climatiques, vraiment de donner des objectifs, notamment de neutralité carbone, horizon 2040-2050. Bill Gates s'est même engagé sur d'être négatif, carbone négatif à partir de 2030, ce qui est un sacré défi. Bon, est-ce qu'il l'aurait fait en dehors du forum? Sans doute, peut-être, mais peut-être pas autrement, peut-être pas de façon aussi visible et peut-être pas de façon aussi concentrée. Là, on a un cumul, ce genre de... Il y a une espèce de presque d'enchère entre les uns et les autres. Et finalement, s'ils arrivent à se tirer la bourre sur des engagements comme ça, c'est finalement pas une mauvaise histoire pour le climat, quoi.
Pauline Leclerc, vous avez le même ressenti là-dessus, sur les engagements carbone, notamment des... à titre privé de ces grands mécènes américains.
Je trouve c'est un débat très intéressant. J'allais justement réagir. Les initiatives qui viennent du monde de l'entreprise et des grandes entreprises sont toujours les bienvenues. C'est des leviers qui permettent parfois d'activer des régulations politiques. Mais Oxfam a la conviction que les changements profonds, structurels, ils passeront par de la régulation publique, par des décisions politiques. On n'est pas là pour être binaire et dire que des engagements de patrons ça ne compte pas, ça compte pour du beurre, c'est pas du tout ça. Mais par contre, on insiste et on ne lâchera pas sur le fait que le changement, il vient de régulation politique, c'est ce qui est le plus durable, le plus pérenne. Pour revenir sur l'aspect philanthropie, ce qui est intéressant, c'est que Bill Gates, on vient d'en parler. Chaque année, à peu près, je pense, il dit qu'il veut être davantage taxé. Il appelle le gouvernement américain à ce qu'on le taxe.
C'est pas le seul milliardaire américain dans ce cas-là, d'ailleurs.
C'est pas le seul, et pourtant, il donne beaucoup d'argent. Donc, il pourrait dire, bon, je donne déjà des millions, voire des milliards à des fondations, à des associations. Mais en fait, ça suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un système économique, en particulier aux États-Unis, où en fait, la richesse n'est tellement pas taxée qu'en fait, c'est presque plus fort que lui, si je puis dire. Et pour donner un exemple parlant à ceux qui nous écoutent, quand il était à la tête de Microsoft, il gagnait deux fois moins d'argent que maintenant qu'il n'est plus en fonction économique, si je peux exprimer ainsi.
Ça veut dire que quand on a du capital, il se multiplie automatiquement.
Exactement.
Même si on donne beaucoup, Stéphane Voisin ?
Oui, sans doute. Les marchés financiers font que effectivement, on peut ne pas avoir de revenus et voir son patrimoine largement augmenter. Mais ceci étant dit, moi, autant je ne crois pas du tout à la théorie du ruissellement en termes de distribution de richesses, autant je crois...
La théorie du ruissellement, on va dire que naturellement, les riches qui ont beaucoup d'argent le distribuent en dessous d'eux, hein, c'est ça que ça veut dire.
Oui, ça, on n'y croit pas, je crois qu'il n'y a pas un économiste sensé qui défend cette idée. Autant je crois à la théorie du ruissellement des idées, c'est-à-dire qu'ils partent en fait des leaders de ce monde... Et qui, peu à peu, si Davos s'empare du sujet des inégalités de façon assez, assez sérieuse, et robuste et fiable, est capable de propager une prise de conscience, effectivement, sur le fait que ça fait pas forcément de sens de renoncer à l'impôt sur les grandes fortunes en France, alors que l'Allemagne est en train d'envisager une mesure équivalente, ou que d'autres pays revont dans cette direction. Mais beaucoup de dirigeants, à mon avis, sont un petit peu isolés dans leur état. État national, je parle, et ça fait pas de mal d'avoir une discussion, un échange global sur ce sujet et s'apercevoir que finalement, comme pour le climat, les leaders finalement sont pas forcément opposés à des mesures qui peuvent paraître assez radicales.
Stéphane Voisin, j'aimerais que vous rebondissiez sur ce qu'a dit Pauline Leclerc. Est-ce qu'il faut des mesures plus contraignantes de la régulation pour faire que l'impact de ces discussions, de ces échanges soit plus important ? Est-ce que c'est faisable ?
Oui, bien sûr, tout est faisable. Il faut beaucoup de, enfin, il faut sur un certain nombre de sujets de la régulation et il faut, on le sait, sur beaucoup d'enjeux réguler le capitalisme, sur le climat, sans doute sur les inégalités. Après, je pense que le constat, enfin, l'ordre du jour de Davos, c'est aussi malheureusement un renoncement des politiques ou une incapacité des politiques à pouvoir prendre des mesures volontaires et assez fortes et parfois pas très populaires, par exemple sur le climat, sur le sujet de la tarification carbone, et en se disant finalement le secteur privé, les milliardaires et les grandes entreprises vont régler le sujet. Donc c'est une façon aussi de se défausser de ses responsabilités et de dire au forum de Davos de régler le problème, ce qui est pas forcément toujours une bonne idée, mais on voit que c'est une tendance très très nette.
Est-ce que la dimension de l'État-nation des États, notamment en Europe, est adaptée à la mondialisation, Pauline Leclerc ?
Alors d'abord, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je note le concept de ruissellement des idées. Je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que votre question, c'est de dire est-ce que les États peuvent avancer seuls ou est-ce qu'en fait les solutions sont au niveau global ? C'est ça,
oui, c'est
la question.
Ça. Est-ce qu'un État comme la France, par exemple, face à Google, face à Apple, peut imposer sa taxe sans faire fuir ses compagnies ?
Oui, moi je suis persuadée que... d'ailleurs, la France, pour le coup, sur le sujet de l'évasion fiscale, a montré que en proposant une solution de manière unilatérale, ça a eu le mérite de remettre autour de la table les États-Unis, qui avaient quitté le jeu des négociations pour se parler d'une taxe sur les GAFA au niveau international. Donc en fait, oui, c'est bénéfique quand un pays décide d'y aller seul. C'est pour ça que Oxfam appelle régulièrement les pays et la France à avoir du courage politique, à s'imposer vis-à-vis de ses homologues, la France vis-à-vis de l'Europe, l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, de la Chine. En fait, tout ça s'imbrique et fait sens.
Stéphane Voisin, sur cette dimension des États par rapport à la mondialisation, l'adaptation, en quelques secondes, il nous reste peu de temps malheureusement.
Oui, moi je pense qu'on est dans c'est une question de rapport de force et que le rapport de force, il a clairement changé. C'est avec notamment l'apparition d'entreprises qui ont la capacité aujourd'hui de faire face et de s'opposer à la décision des États. C'est assez incroyable qu'on est dans un contexte où jamais les États, les nations ont été autant coordonnées sur le sujet fiscal et quand même, elles n'arrivent pas à faire passer leurs décisions.
Merci. Merci Stéphane Voisin. Merci Pauline Leclerc d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité.